Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Édition spéciale États-Unis avec nous en ligne une spécialiste bien connue des auditeurs d'Europe 1. Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour Patrick.
Merci d'être là. Et en studio, François Clémenceau. Bonjour François, rédacteur en chef au Journal du Dimanche, nos voisins du dessus ou dessous
Sixième.
Dessus, exactement. Et ancien correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Nicole, je me tourne d'abord vers vous pour essayer de trouver une façon de à cette heure-ci, de regarder l'épisode qui vient de se dérouler sous nos yeux, puisque toutes les caméras étaient là-bas, à Washington. Tentative d'insurrection ou parenthèse spectaculaire, mais finalement inoffensive et sans conséquences pour la démocratie américaine.
Tentative d'insurrection, oui, puisqu'il s'agissait quand même d'intimider des parlementaires pour les obliger à changer le résultat de l'élection. Parenthèse, oui aussi, puisque les institutions ont tenu, que Joe Biden a été confirmé et que finalement Donald Trump va céder. Mais c'est une parenthèse qui laissera des traces et des traces très profondes. Vous savez, personne n'avait attaqué le Capitole depuis 1814, pendant ce qu'on a appelé la Seconde Guerre d'indépendance, qui se déroulait contre les Anglais, qui ont envahi Washington et brûlé le Capitole jusqu'au sol. Depuis, il y avait eu des scènes épiques, des disputes, des manifestations autour du bâtiment. Jamais, jamais une invasion par une foule en colère du Capitole.
François Clémenceau, même question sur les conséquences pour la démocratie américaine et aussi sur les conséquences de la preuve de l'existence d'un noyau dur de partisans déterminés. On répète, certains étaient armés à l'intérieur du Capitole. On n'avait pas cette information hier soir parce qu'on ne savait pas exactement ce qui se passait. Certains des manifestants avaient les moyens de passer en force.
Oui, c'est une leçon, si vous voulez, à grande échelle de ce qui s'est déjà passé aux États-Unis et il n'y a pas si longtemps. Cet automne, vous avez eu des miliciens armés qui sont rentrés dans le Parlement du Michigan et qui ont obligé, et qui ont tenté d'obliger avec pistolet sur la tempe à l'appui des parlementaires de l'État du Michigan pour voter contre les mesures de restriction sanitaire qui avaient été décidées par le gouverneur du Michigan, qui est une femme, une démocrate. Et on voit bien, si vous voulez, qu'à travers ce mouvement, il y a une volonté de perturber effectivement le processus démocratique, de changer le cours des choses. Et en même temps, ces centaines de personnes, d'individus qui sont rentrés dans le Capitole hier soir ne sont pas non plus les dizaines de milliers qui étaient restés dehors. Il y a donc une distinction, si vous voulez, entre des supporters de Trump désespérés de voir la victoire leur échapper et qui veulent poursuivre ce rêve de grandeur avec le président Trump une fois le 20 janvier passé, et d'autres qui ne peuvent pas s'y résoudre et qui sont prêts à passer à l'action, pas forcément de façon structurée, coordonnée, façon commando, avec une organisation. On a bien vu la pagaille dans laquelle ça s'est fait. Ça ressemblait un peu à ce qu'on a vu chez nous avec les gilets jaunes à certains épisodes. Donc, mais ça traduit, si vous voulez, une capacité qu'il y a chez certains aux États-Unis de vouloir s'imposer par la force au-delà des institutions démocratiques. Ça n'a pas d'autre mot qu'une forme de fascisme.
Une tentation fasciste aux États-Unis.
Qui n'est pas nouvelle parce que vous avez eu par le passé aussi aux États-Unis à certains moments de l'histoire contemporaine, et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi après, dans les années 50, cette volonté de se dire qu'il y a les forts et il y a les faibles. La démocratie n'est pas tout. La démocratie, ça n'est pas qu'une élection. Et ça me rappelle, si vous voulez, quand il y a eu la création du Tea Party, quand le Tea Party a essaimé à travers tous les États-Unis, c'était il y a à peine 10 ans, il y a eu une volonté à un moment de coordonner ce mouvement de façon politique pour en faire une sorte de parti républicain bis. Et à l'époque, quand j'allais voir ces gens et je leur disais « Mais c'est qui votre héros ?», ces gens me répondaient « Eisenhower ». Eisenhower n'était pas un fasciste, c'était juste un général de l'armée américaine qui était devenu président et qui voulait restaurer déjà à l'époque une forme de grandeur. Cette nostalgie-là, elle existe toujours aux États-Unis et la question que je me pose, c'est de savoir si elle est capable de se fédérer pour se transformer en un parti musclé aux États-Unis.
Ce matin, Nicole Bacharan, ce matin, comme ces dernières semaines, on entend des rassuristes, parce que c'est comme pour le Covid, hein, il y a des rassuristes et des alarmistes, on entend des rassuristes dire, mais les institutions démocratiques américaines, finalement, ont tenu, ont passé le cap d'une élection très difficile et contestée. Et puis finalement, voilà, le Congrès a proclamé Biden président. Mais que se serait-il passé si, par exemple, le responsable électoral de Géorgie avait répondu l'autre jour au téléphone à Donald Trump ? Oui, d'accord, monsieur le président, je vais essayer d'inverser le résultat de l'élection et de vous trouver les 11 000 et quelques bulletins qui vous manquent.
Absolument. Et c'est cette question-là, elle nous rapproche de cette tentation fascisante dont parlait François à l'instant. Et également, elle nous montre au fond que ce qui s'est passé hier à Washington, c'est une tentative de coup d'État par le président sortant, mais totalement incapable d'organiser un coup d'État. Parce qu'il a appelé avec une extrême véhémence, je l'ai écouté, pendant plus d'une heure, ses partisans à marcher sur le Capitole et répétant qu'on avait volé son élection. Et puis les gens ont marché sur le Capitole et puis ils sont entrés dans le Capitole. Et là, eh bien, on a senti qu'à la Maison-Blanche, Donald Trump, il ne savait plus que faire. Espérait-il que sous la pression des gens autour du Capitole, les parlementaires changeraient d'avis? En fait, vous le rappeliez très justement, les institutions ont tenu. Les tribunaux, par exemple, ont rejeté les recours absolument infondés sur les fraudes électorales, avec des juges républicains, démocrates. C'était sans importance. Mais ce qu'il a manqué à cette tentative hier, eh bien, c'est l'armée. Donald Trump a toujours su que l'armée ne suivrait pas. Mais c'était une sorte de coup d'État en pleine pagaille, organisé par un homme qui ne sait rien organiser.
Coup d'État inorganisé, c'est un peu un oxymore, si
oui,
je peux
c'est
me permettre,
vrai, vous avez raison.
Nicole Bacharan, parce que normalement un putsch, c'est préparé, organisé. François Clémenceau, un dernier mot.
Oui, mais le fait même, si vous voulez, qu'il y ait un certain nombre de responsables politiques américains, ou judiciaires d'ailleurs, qui se soient désolidarisés, il faut le dire, extrêmement tardivement, après avoir soutenu Trump dans ses démarches de contestation de l'élection. Je pense notamment à Mike Pence, mais pas uniquement. Je pense aussi à Stephen Miller, son conseiller politique. Je pense à Pat Cipollini, son avocat à la Maison-Blanche, vous savez, qu'il a défendu dans son procès pour destitution et qui, hier soir seulement, a donné l'ordre aux collaborateurs de la Maison-Blanche de cesser de prendre les ordres du président Trump parce qu'il y avait menace de sédition. Je veux dire, tous ces retournements de veste de dernière minute traduisent, si vous voulez, une aventure qui est allée trop loin, mais dont les principaux responsables ne se sont rendus compte qu'à la toute dernière minute, comme si, depuis le 7 novembre, il n'était pas possible de dire au président « ça suffit, les jeux sont faits ».
Oui, ils sont rattrapés simplement par leurs intérêts immédiats. C'est une manière de sauver sa peau dans la dernière minute. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cynisme et de pusillanimité chez tous ces responsables-là. Mais Mike Pence a joué sans doute un rôle qu'il faudra éclaircir
dans
les prochains jours, parce que c'est lui qui signe le décret de convocation de la garde nationale.
Et vous avez vu ce qu'il dit devant les sénateurs, lorsqu'il explique pourquoi il ne peut pas inverser les résultats? Il dit « parce que je suis contraint par la Constitution ». Et vous ne savez pas si cette contrainte, il la regrette, ou si finalement, elle l'oblige.
Merci beaucoup Nicole Bacharan d'avoir été en ligne avec nous. Merci François Clémenceau, qu'on peut lire, continuer de lire dans le journal. Et puis vous avez un blog en plus dans le journal du dimanche, et puis un blog sur le JDD ?
Trump Power sur le JDD.fr, à lire cet après-midi.
Merci à vous deux.